On reçoit ce soir Nathalie et Raphaël qui ont participé à rédiger l'ouvrage Feu au centre de rétention, sous-titré janvier-juin 2008, des sans-papiers témoignent. Et peut-être qu'on peut dire deux mots sur ce livre, sur ce projet, qui est en gros, vous avez fait un travail qui aurait dû, si les choses se passaient bien, être fait par les journalistes, essayer d'aller récupérer des informations à la source sur ce qui se passait dans les centres de rétention administratif, mais concrètement, c'est un collectif de militants sur ces questions-là qui s'y est collé. Est-ce qu'on peut dire deux mots de ce projet et de comment se passe
La première idée, en fait, c'est de donner la parole aux gens eux-mêmes, donc de sortir un peu de l'habitude que ce soit les organisations qui parlent à la place des gens. Donc l'idée, donc, c'était d'appeler dans les centres et de parler aux gens directement et de retranscrire le plus fidèlement possible ce que les gens disaient, les sans-papiers retenus dans le centre de rétention. Et puis c'était pas seulement dans une démarche de publication, mais aussi dans une démarche quotidienne de soutenir la lutte qu'il y avait à l'intérieur des centres et d'échanger des informations, par exemple s'échanger... des techniques pour échapper aux expulsions à l'aéroport, de lire aux retenues les journaux, les articles des journaux qui expliquaient, enfin qui racontaient la lutte à l'intérieur des centres, donner des contacts aux retenues à l'intérieur pour qu'ils puissent faire sortir les informations par eux-mêmes, ce qui n'a pas toujours très bien fonctionné parce que ils n'ont pas forcément accès à un fax, ils n'ont pas des cartes téléphoniques illimitées. Et puis, leur raconter la mobilisation à l'extérieur, parce que c'est très dur d'échanger directement. Et puis enfin, essayer de comprendre nous-mêmes comment c'était organisé à l'intérieur, et surtout de se tenir au courant au quotidien de la mobilisation et de la répression qui avait lieu à l'intérieur du centre.
Alors on évoque les centres de rétention, les fameux centres de rétention administratifs. Il faut peut-être dire deux mots sur qu'est-ce que c'est que ces CRA, et voilà, c'est quoi et ça sert à quoi et ça intervient à quel moment ?
Les centres de rétention naissent au début des années 80 et ils prennent de l'ampleur ces dernières années à partir du moment où le but est d'expulser le plus de gens possible. Pour expulser le plus de gens possible, il faut les mettre à un endroit où ils vont être facilement expulsables, donc où on les tient sous la main. Donc concrètement, c'est des lieux, c'est un lieu d'enfermement, mais c'est avant tout un lieu de stockage des gens avant leur expulsion. En gros, c'est ça.
Alors, en gros, c'est assez difficile. Quelle distinction on fait avec une prison, une garde à vue, c'est pas la même chose. Quel est le statut particulier de ces CRA ?
D'abord, c'est une décision administrative, donc c'est pas une décision judiciaire. C'est la préfecture qui décide, en émettant un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, de placer les gens en rétention en vue de leur reconduite à la frontière. Donc la décision administrative, on peut faire appel. On a 48 heures pour faire appel après la réception d'un APRF. Il faut savoir que ce n'est pas automatique. Hein. On peut être raflé, arrêté dans Paris ou en banlieue ou n'importe où, se voir notifier un APRF et pas être placé en rétention. Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Voilà. Et donc, on a 48 heures pour faire un recours, donc pas auprès de la justice, mais auprès du tribunal administratif. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas et ne le font pas.
Alors après, il y a ce fameux 35 bis, si on essaye d'expliquer comment ça se passe, parce qu'en rétention administrative, il y a régulièrement, on repasse devant un juge qui vous maintient ou non en rétention.
Alors en fait, au bout de 48 heures qu'on est placé en rétention, on doit passer devant le juge des libertés et de la détention, qui là est un juge judiciaire, qu'on appelle le 35 bis, puisque c'était le nom de l'article de loi. Et donc lui décide de la régularité du placement en rétention. Et la plupart du temps, à Cité, en tout cas, il reconduit les gens en rétention pour une durée de 15 jours. Et au bout de 15 jours, si on n'a pas été expulsé, on repasse devant le JLD qui reprolonge de 15 jours. Ce qui fait qu'en tout, la rétention peut durer 32 jours. En moyenne, les gens, ils restent à peu près 15 jours en France dans les centres de rétention, entre les gens qui sont expulsés et les gens qui sont libérés. Puisque tout le long de la rétention, en fait, il y a la question du consul et de l'expulsion. Parce que pour expulser, l'État français a besoin de l'autorisation du pays si elle ne détient pas le passeport des sans-papiers. Et donc la plupart du temps, elle ne détient pas le passeport et elle doit demander au consulat vraisemblable du sans-papier, donc qu'elle détermine en regardant le mec et en regardant sa langue, quoi, l'autorisation du pays pour expulser la personne. Et donc il y a des pays qui font des courbettes à la France, genre l'Algérie, le Sénégal, tout ça. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus réticents à donner des laissez-passer, comme le Mali. Et donc la France est en conflit d'ailleurs avec le Mali dernièrement là-dessus.
Alors moi, je me souviens quand il y avait eu des premières mobilisations il y a quelques années sur les centres de rétention administratifs, on avait lu les textes et dans les textes qui définissaient ce que devait être un centre de rétention administratif, il était inscrit que les retenus étaient logés avec des prestations de type hôtelière. Alors je veux savoir un petit peu ce qu'il en est des conditions de vie et à quoi ça ressemble ces unités-là. C'est des hôtels ?
On est très 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 loin de ça, évidemment, et on le découvre aussi beaucoup au fur et à mesure de la lecture du livre, par exemple au niveau de la nourriture, qui est une des choses qui revient très très régulièrement dans les témoignages, même si on a fait des coupures parce que ça revenait même trop souvent, parfois c'était presque lassant la lecture. La nourriture, par exemple, qui est très souvent périmée, ça se voit parce que c'est servi dans des barquettes. Souvent, la nourriture, elle est froide, elle n'est même pas chauffée. Il y a la date de péremption dessus, on se rend compte que c'est périmé depuis longtemps. En plein hiver, parfois, il n'y a pas de chauffage ou carrément, dans d'autres endroits, on a entendu dire qu'ils mettaient la clim au milieu de la nuit parce que, soi-disant, sinon, ça puait. Souvent, l'État, quand il veut communiquer sur les conditions de vie à l'intérieur du centre, ils font venir des médias qui vont montrer les rares endroits qui ont été rénovés ou les rares endroits où il y a, par exemple, à disposition un jeu vidéo. Mais c'est très peu représentatif des réelles conditions. En général, les locaux sont en très mauvais état.
Mais en fait, les situations sont différentes d'un centre à l'autre. Hein. C'est vrai que Vincennes, c'est le plus gros centre. Il faut voir les idéologies à l'œuvre dans la tête des flics quand ils accueillent les étrangers. Donc forcément, on imagine le traitement des gens. Par exemple, au Ménil-Amelot, c'est pas la police nationale, mais c'est la gendarmerie. Et on voit que les rapports sont différents entre les gendarmes et les flics par rapport aux retenus. Mais de fait, ça change rien. C'est-à-dire, même s'il y a du chauffage ou même s'il y a de l'eau chaude. C'est vrai que, quelque part, ces trucs-là, si les retenus parlaient en premier de la bouffe, c'est parce que c'est symptomatique de la façon dont on traite les gens. Voilà. Mais en fait, le problème et l'angoisse principale des gens, c'est qu'ils vont être expulsés, quoi. Et je sais qu'il n'y a pas très longtemps, on a téléphoné au Ménil-Amelot et c'était super angoissant pour nous quand on a téléphoné parce que quelque part, tout se passait bien, quoi. Il n'y avait quasi pas de problème. Bon, si, il faisait froid, voilà, les gens se plaignaient du froid. Mais en fait, c'est comme si... voilà, quand il n'y a pas de trucs sur lesquels s'accrocher, quoi, il ne se passe rien et la machine à expulser continue tous les jours, quoi. C'est un espèce de, voilà, un espèce de train, arrestation, placement en rétention, expulsion, chauffage ou pas chauffage, quoi.
Alors, on va, avant de revenir sur le cas précis des deux centres de rétention de Vincennes, il faut peut-être dire un mot sur cette espèce de maillage du territoire qu'il y a à travers les centres de rétention. Tu as évoqué celui du Ménil-Amelot, mais on voit un peu partout en France ce genre d'unité se développer.
Oui, alors ils sont très nombreux, ils sont souvent très cachés surtout. On les place souvent dans des zones qui ne sont pas... visible, près des aéroports. Celui de Vincennes, par exemple, il est au milieu d'un bois. Ils sont très nombreux, et pas seulement qu'en France, aussi en Europe et aux frontières de la forteresse Europe, comme on dit, c'est-à-dire au Maghreb, en Europe de l'Est.
Oui, parce que le but à terme, effectivement, c'est que ce soit les pays tiers et les pays autour qui gèrent ce genre de choses plutôt que la France. Mais en tout cas, pour l'instant, comme ce n'est pas possible... la France, actuellement, je crois qu'il y a 27 centres de rétention et il y a encore en construction une dizaine de prévus, dont un énorme, un nouveau, près du Ménil-Amelot, un autre de 240 places qui va être construit.
Voilà, donc on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Ils veulent que j'achète leurs conneries. Ils veulent donner un sens à ma vie. M'imposer des besoins, que j'arrête les joints, change mes envies. Ils veulent que je baisse les yeux devant monsieur l'agent. Me rendre accro à l'argent, que je respecte un drapeau qui a baigné dans le sang. Ils veulent qu'on consomme, qu'on consomme l'ardennette à petit feu. Qu'on bouffe de la merde chaque jour un petit peu. Ils veulent amasser des thunes, savent qu'il faut détruire pour reconstruire. Disent démocratie pour pas dire empire. Ils veulent structurer la vie humaine. À quoi ça sert la poésie? Faut être rentable en gros et vite. Empaqueté, conditionné, prêt à la vente sur chaque continent. On délocalise sans faire de sentiments. Bienvenue sur la planète Terre, gérée par des bâtards d'actionnaires qui changent en glaçons la calotte polaire. Bande de fils de pute, ça semble abstrait mais c'est bien réel. Quand t'entends la voix du peuple des ruelles, pourquoi il se passe rien? Parce qu'ils nous gavent avec TF1, des JT truqués, des stars qui se vendent bien. Et au final, tu te retrouves occupé à survivre, chercher à bouffer au lieu d'être lucide. C'est le génocide d'une espèce qui a confondu le fait qu'elle progresse avec les richesses issues de son business. Don't stress, t'as fait le bon choix en chopant l'album. Je prends le mic car je marche loin des sentiers de Babylone. J'avance sur une putain de route au milieu de nulle part, au milieu des ombres, une banlieue cachée dans le noir. Ils veulent attendre l'espoir, attendre sagement qu'il cesse de pleuvoir. Comprendre trop tôt qu'il est déjà trop tard. J'avance sur une putain de route au milieu de nulle part, au milieu des ombres, une banlieue cachée dans le noir. Le silence résonne, j'entends la voix de la mort qui chantonne. M'invite sur les sentiers de Babylone. Et chez nous, y'a les cons et ceux qui rappent mal. La plupart du temps, les deux ne font qu'un et ces connards sont pleins. Ils attirent le peuple sur les sentiers de Babylone. Vendre et acheter, pour ça ils justifient toute lâcheté. Révise tes classiques, arrête d'écrire ta sale merde. Bande d'esclaves du fric, enculés par Pascal Nègre. Parce que nous sommes aliénés, humiliés, parce que nous sommes oppressés, que les forces de l'ordre veulent nous molester. Ils veulent qu'on s'agenouille, électrode sur les couilles. Tu résistes au coup jusqu'à ce qu'un proche identifie ta dépouille. Ils veulent qu'on arrête de se débattre, de combattre. On signe la trêve, qu'on crève et qu'on approuve la débâcle. Partout sur le globe c'est le même refrain, les mêmes routes abandonnées. Des jours sans lendemain, des pentes sans sommet. Regarde derrière les images, papier glacé, sourire ultra bright. Toujours une matraque, le flash d'une maclite. Produire pour exister, vivre pour produire. Des richesses sans cesse, pas moyen de se désister. Moi j'oublie pas les vérités que je dois dire aux miens. L'inverse de leurs rêves et modes de vie babyloniens. J'avance sur une putain de route au milieu de nulle part, au milieu du brouillard, l'antichambre du purgatoire. Je parle de liberté, de bonheur, ce dont ils veulent nous priver. Je suis un homme libre, greffier, crivé. J'avance sur une putain de route au milieu de nulle part, au milieu des ombres, une banlieue cachée dans le noir. Ils veulent attendre l'espoir, attendre sagement qu'il cesse de pleuvoir. Comprendre trop tôt qu'il est déjà trop tard. J'avance sur une putain de route au milieu de nulle part, au milieu des ombres, une banlieue cachée dans le noir. Le silence résonne, j'entends la voix de la mort qui chantonne. M'invite sur les sentiers de Babylone.
Mardi 12 février. Tout a commencé vers 23h30. Nous étions dans la salle télé. La police a éteint la télévision sans explication. On a demandé qu'ils la rallument, ils n'ont pas voulu. Le ton est monté très vite. Ils ont voulu mettre une personne en isolement. On a empêché la police de la prendre. Ils nous ont demandé de monter dans les chambres pour le comptage. On a refusé. Ils sont alors revenus en nombre. Ils étaient plus de 50. Il y avait des CRS et des policiers. Ils nous ont séparés en deux groupes, puis ils nous ont tabassés dans l'escalier, dans le couloir et dans les chambres. Il y a 5 personnes blessées, dont 2 assez gravement. L'un semble avoir le bras cassé, l'autre le nez. Celui qui a le nez cassé a été tabassé dans sa chambre. L'infirmier est venu, il a dit qu'il ne pouvait rien faire et qu'il fallait appeler les pompiers. Ils sont venus. Ils ont emporté 5 ou 6 personnes. Certains sont à l'hôpital, d'autres sont en isolement, on ne sait pas trop. Entre 3h30 et 4h du matin, les flics sont venus. Ils nous ont tous sortis dans la cour. Certains n'ont pas eu le temps de s'habiller. On a attendu une demi-heure dans le froid. Pendant ce temps-là, ils ont fouillé les chambres. Puis ils nous ont fouillés 10 par 10. Quand nous sommes revenus dans les chambres, on a trouvé un courant déchiré et piétiné, les fils de chargeurs de portables coupés. Des téléphones avaient disparu.
Voilà, ce que vient de lire Sophie, c'est un extrait du livre « Feu au centre de rétention ». Et c'est un des nombreux témoignages de sans-papiers retenus au centre de rétention de Vincennes qui témoignent. Donc vous les avez au téléphone et ils vous racontent ce qui se passe, qui est assez troublant dans cette série de témoignages. C'est la violence qui a l'air récurrente dans la manière dont ils sont traités par la police dans ce centre.
Quotidienne, contre une révolte quotidienne. Nous, ça a été l'élément déclencheur, en quelque sorte, en décembre dernier, donc il y a bientôt un an. Il y avait eu une grève de la faim, et puis le soir, les retenus avaient refusé de rentrer dans leur chambre. Et 150 CRS sont débarqués, y a eu des affrontements toute la nuit. Ça a duré 3 jours de suite. Et là, il a commencé à avoir des manifestations quotidiennes devant le centre de rétention de Vincennes. Et voilà, c'est là que tout a commencé et qu'on a commencé à appeler régulièrement aussi pour savoir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Parce que voilà, il faut savoir qu'il n'y a quasiment personne qui a le droit de rentrer dans les centres de rétention. Et donc, c'est très difficile de savoir ce qui s'y passe.
Et justement, ce qui est étonnant, parce qu'évidemment, ils sont voués soit à retourner dans la clandestinité pour ceux qui arrivent à échapper à la machine administrative à expulser, soit ils sont expulsés, et que d'un seul coup, on découvre que il se passe ça dans ces centres-là, et que c'est évidemment, il n'y a pas moyen d'avoir témoignage, sauf dans des conditions exceptionnelles comme celle-là.
Oui, en fait, probablement, dans tous les centres de rétention, il se passe des trucs régulièrement. Bon, ça va de la révolte individuelle, de la démerde individuelle pour échapper à son expulsion, qui passe souvent par l'automutilation. Mais c'est tous les jours dans les centres de rétention que les gens, ils avalent des trucs, des lames de rasoir le plus couramment, quoi, pour échapper à l'expulsion, à des révoltes collectives. Et effectivement, nous, ce qu'on a essayé de relayer, c'est les révoltes collectives. Et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on était en contact avec eux et qu'ils nous racontaient ce qui se passait, ça leur donnait du courage pour continuer. Nous, ça nous donnait du courage aussi pour continuer à les soutenir à l'extérieur. Et du coup, ça permettait de continuer sur la durée. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, les gens, ils restent au maximum 32 jours en centre de rétention. Et qu'en moyenne, les gens, on les avait à peu près 15 jours, pas plus, quoi. Parce que soit ils étaient libérés au bout d'un moment, s'il n'y a pas le laissez-passer, tout ça, ou soit ils étaient expulsés. Il y a un truc qui est très important, comme disait Rafa tout à l'heure, c'est qu'on échangeait beaucoup avec les retenus au bout de quelques coups de téléphone sur comment on résiste à une expulsion. Et donc, souvent, ça s'est terminé pour nous à aller à l'aéroport pour empêcher l'expulsion des gens. Mais donc, l'histoire des luttes dans les centres de rétention, elle est très difficile à maintenir. Et nous, on était un des éléments pour la maintenir parce que on pouvait raconter ce qui s'était passé un mois et demi avant, quelles techniques avaient utilisé les retenus quand on téléphonait à des nouveaux retenus, quoi. Parce que l'histoire, elle est difficile à se perpétuer vu qu'il y a un turnover important et que les gens ne restent pas.
Alors, il y a un autre truc qu'il faudrait évoquer, c'est que normalement, les retenues ne sont pas, abandonnées dans ce centre. Il n'y a pas que la police, il y a aussi, un organisme, enfin c'est prévu statutairement, il y a un organisme qui a droit de siéger et d'apporter son aide aux retenues. Alors il y a, actuellement c'est la CIMADE, puisque c'est un appel d'offres que la CIMADE a obtenu il y a plusieurs années. Vous revenez sur le cas de la CIMADE, est-ce qu'on peut dire deux mots de ce qu'ils font, comment ils se comportent et quelle est l'utilité de leur présence dans ce centre?
Ouais, donc la CIMADE, c'est la seule association qui a accès au centre et qui est là normalement pour faire une défense juridique, c'est-à-dire essayer de voir les personnes qui sont les plus défendables et faire des recours pour qu'ils échappent à leur expulsion. Donc c'est un mode d'opposition à la politique du gouvernement qui est assez particulier parce que déjà ils sont payés par le gouvernement pour faire ce qu'ils font et ils le font dans une optique de sauver quelques personnes sur le tas et voilà une démarche plutôt humanitaire de aussi peut-être dénoncer, enfin pas peut-être, qui essaye aussi de décrire les conditions dans le centre de rétention. Simplement, ce n'est pas du tout une organisation qui se présente comme une lutte pour des papiers pour tous et contre les centres de rétention. La CIMADE se trouve plus dans une démarche d'aménagement des conditions de vie dans le centre de rétention. On a pas mal critiqué le fait que la CIMADE soit critiquée dans le livre. Faut savoir que nous, on est arrivé sans préjugé aucun sur la CIMADE, au contraire, et qu'on s'est rendu compte effectivement qu'en discutant avec les retenues, y avait un vrai problème avec cette association. Déjà, les retenues avaient beaucoup de mal à différencier la CIMADE de l'ANAEM, l'ANAEM étant, elle, une organisation directement étatique. Et voilà, ils avaient le sentiment que la CIMADE faisait du cas par cas, en fait.
Alors si on sort de ça, parce que vous trouvez que la CIMADE tient pas son rôle d'assistance et de soutien aux retenus. L'État a tenté de récemment, on veut peut-être dire deux mots sur cette affaire. Ils ont tenté de retirer à la CIMADE le droit d'être présent dans ces centres.
Oui, parce que pour le gouvernement, la CIMADE est encore trop critique. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut reconnaître de positif à la CIMADE, c'est le fait qu'ils soient dans tous les centres de rétention. Ils n'y sont pas le week-end, hein, d'ailleurs, ce qui pose sacrément problème, parce que le délai que je disais tout à l'heure de 48 heures pour faire les recours sur les APRF, par exemple, ils ne sont pas faits le week-end. Et en plus, il y a des centres de rétention où la CIMADE n'a pas pour... où les permanents de la CIMADE ne voient pas systématiquement tous les retenus. À Vincennes, il me semble que l'équipe avait décidé de voir systématiquement tous les retenus, mais voilà, ne fait pas des recours systématiques parce que souvent, ils jugent qu'ils les perdront, donc ils ne les font pas. Mais l'avantage, effectivement, un des trucs de travail bien que faisait la CIMADE, c'est d'avoir une vision globale de la rétention en France et de produire un rapport annuel assez critique, bien évidemment, de la politique du gouvernement. Et donc, le gouvernement a décidé de leur retirer cette capacité-là. Donc, sur l'appel d'offres, ils créent plusieurs lots, c'est-à-dire ils essayent de faire une discontinuité sur le territoire français pour que les informations ne circulent plus et qu'il n'y ait plus une vision d'ensemble de ce qu'est la rétention.
Mais donc, on en est où là? Parce que ça a contesté.
A contesté. Ils ont perdu. C'est-à-dire, il y a eu un référé. Il me semble, je ne sais plus exactement le terme juridique, contre l'appel d'offres fait par les associations, et elles ont gagné donc ces associations auprès du tribunal administratif qui a annulé l'appel d'offres. Voilà.
Parce que la défense juridique ne peut pas relever d'un appel d'offres, donc d'un marché. C'était l'argument qui a été
relevé. Oui, en fait, ce n'est pas tout à fait l'argument. C'est-à-dire, c'est effectivement sur le juridique, ils ont jugé que, étant donné que normalement, c'est pour défendre les droits des gens retenus, c'était une défense juridique et que donc, il fallait qu'il y ait dans l'appel d'offres une définition de ce à quoi une association doit répondre en termes juridiques. Et je ne sais plus de combien de pourcents devait prendre le juridique. Mais en tout cas, l'appel d'offres était très mal défini par rapport à ce qu'on demandait aux associations. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est assez compliqué à expliquer.
D'accord. Donc revenons sur le centre de Vincennes. Là, ce que vous décrivez dans le livre, c'est des grèves de la faim à répétition qui partent. Est-ce qu'on peut évoquer ça ce mode de mobilisation?
Oui, bah il y a vraiment une difficulté à l'intérieur du centre à se mobiliser, qui passe effectivement très régulièrement par la grève de la faim et surtout très régulièrement par le constat que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a un turnover important, et surtout parce que les gens, ils n'ont rien à faire pendant la journée, qu'il n'y a visiblement aucun impact auprès des policiers qui, visiblement, seraient prêts à les laisser crever de faim. Et du coup, au bout de quelques jours, y en a qui craquent et qui se remettent à manger. Il n'y a pas que ce mode de mobilisation-là. Il y a le fait de refuser de rentrer dans les chambres, de déchirer les cartes, parce que quand on rentre dans le centre de rétention de Vincennes, on donne à chaque retenue une carte qui les identifie et qui leur permet d'aller voir la CIMAAD, d'aller voir le médecin. Enfin, c'est une carte qu'on doit présenter à chaque démarche à l'intérieur du centre. Et donc, quand on la déchire, forcément, ça déstabilise l'organisation. Et puis, y a les automutilations qui leur permettent souvent d'échapper le jour J à l'expulsion. Toutes ces démarches, finalement, elles avaient beaucoup de mal à aboutir. Et faut dire aussi que des incendies, il y en a régulièrement dans les centres. Hein. C'est pas du tout... Effectivement, c'est rare que le centre brûle en entier, mais des feux de chambre, il y en a très, très souvent. Et c'est vrai que très souvent, le constat que font les retenues, c'est de dire que la grève de la faim, ça ne fonctionne pas et qu'il faudra avoir une action qui ait un impact plus grand. Et avant l'incendie, plusieurs mois avant, donc des gens qui n'avaient rien à voir avec l'incendie du mois de juin, disaient déjà que ce serait peut-être l'événement qui aurait un réel impact.
Après, il y a une adaptation permanente des flics au mode d'organisation collective des gens. Bon, alors après, il y a 15 000 techniques pour diviser les gens entre communautés, pour créer des tensions entre communautés pour pas que les gens fassent des actions ensemble. Mais par exemple, il y a un des moments... Alors effectivement, Rafa a parlé du refus de rentrer dans les chambres qui était très souvent pratiqué par les gens et le refus de comptage, puisque il y a une époque où, début janvier, février, tout ça, les retenues étaient comptées jusqu'à 6-7 fois par jour et même le dernier comptage avait lieu à minuit. Et donc, voyant que c'était des moments que les retenus utilisaient pour se mutiner, il y a une période où on est retombé à un comptage par jour, par exemple, pour essayer de désamorcer les luttes dans le centre.
D'accord. Donc on...
Laisse-moi l'instru et je te la plie en moins de 2 minutes. Mon rap tape ton cortex et n'épargne pas les minus. Je t'abasse le beat un peu comme le drame de Vénus. On va percer un jour et t'avaleras la pilule. Aïtrema inscrit les deux lettres dans ta liste de mecs qui révolutionnera leur playlist de merde. Leur rap sans la banane dentique, nos couplets de canard. On monte et cultive notre buzz comme des pieds de canard. Leur rap sans le bluff, on est la résistance. L'heure a sonné de saigner, compile et c'est des sampleurs. Esclaves de la zix, les mots m'astreignent, les flots maltraitent vu que les rimes sont des maquerelles. Dans les packs c'est la mousson, on fout le boucan à coups de son, lourd défend notre bout de camp à la boum son. On reste froid pendant que les autres sont avachis. Un rap du troisième type combat de l'homme contre la machine.
Une fois de plus on ramène la vibe, tu kiffes. T'inquiète pas on a les bases, patience, tout arrive vite. Vu qu'il y a du potentiel et que le rap se dégrade, on attaque, frappe à chaque apparition, pas le temps pour les blagues.
Les couplets sont fermes, les épaules sont solides. Ça cache, c'est trois fiches du béton, trois bons solistes. Mec, on gratte nos chroniques d'en bas de l'échelle. Riche dans nos têtes, car ici la liberté est chère.
J'essaie d'anticiper les choses, poteau. Y'a pas le temps, faut se lever tôt. Pourtant, j'aimerais que ce soit autrement, trop fort. Ouais. Pour toi, abandonne, j'ramène des phases en abondance. Donc faut que ça grogne et ça cogne. Grand, entre rap et rue, j'vois que le sort s'acharne. J'aperçois du sang et de la chair quand ça cache qu'on m'accompagne. Péter le champagne, éviter le chantage. Allez plutôt faire campagne pour les victimes du saccage. De quoi il s'agit? Pourquoi il s'agit? Ça panique vite comme d'hab et c'est pour ça qu'on s'invite. À quoi on s'apprête? Prends notre part avant que ça s'arrête. Car mec, le rap fait mal à la tête. Accepte. couvert, pas d'arrivée. Tout ça c'est un casse-tête, j'arrive pas à faire rimer. Y'a un arrivage, pas besoin de renfort. Voilà les kamikazes qui vont tout péter en fort.
Une fois de plus, on ramène la vibe.
Tu kiffes?
T'inquiète pas, on a les bases. Patience, tout arrive vite.
Vu qu'il y a du potentiel et que le rap se dégrade, on attaque, frappe à chaque apparition, pas le temps pour les blagues.
Les couplets sont fermes, les épaules sont solides. Ça cache, c'est trois fiches du béton, trois bons solides. Mec, on gratte nos chroniques d'en bas de l'échelle. Riche dans nos têtes, car ici la liberté est
chère. Alors c'est ça, leur art de vivre. Combattre pour une petite mise, même si t'es en situation de crise. Beaucoup font pour le bis. Pour les poches, vite, telle est la solution. Un revenu net de dur labeur qui s'épargne de déclarations. C'est une question de survie, mais peu comprennent que entrave et délit nourrit les faces cachées de ce système. À quoi ils s'apprêtent, si ce n'est vouloir nous la mettre, sans omettre de faire taire les jeunes qui veulent pas se soumettre. Les maisons d'arrêt ouvrent leur cache si tu marches pas droit. Et vu qu'on est visé, chacun risque un séjour là-bas. Alimente les médias, les presses à sensation. Une belle manipulation qui font de nous des mauvais garçons. Maître de notre scénario pour arriver à ce qu'on veut. Pas de fabulation, quant au rap c'est toujours franc jeu. Donc dangereux pour tous ceux qui ne s'y reconnaissent pas. Chez nous on vit dans la violence et ce n'est qu'une chronique d'en bas.
Une fois de plus on ramène la vibe.
Tu kiffes?
T'inquiète pas, on a les bases. Patience, tout arrive vite. Vu qu'il y a du potentiel et que le rap se dégrade, on attaque, frappe à chaque apparition, pas le temps pour les blagues.
Les couplets sont fermes, les épaules sont solides. Ça cache, c'est trois fiches du béton, trois bons solistes. Mec, on gratte nos chroniques d'en bas de l'échelle. Riche dans nos têtes, car ici la liberté est chère.
Jeudi 21 février, le matin. On a écrit une lettre à la CIMAD, ma chambre est devenue un bureau. Les gens viennent signer la lettre, prendre un renseignement, une information, etc. J'ai collé ma carte sur la porte avec de la confiture pour que les gens sachent que c'est ici. Le matin, je l'ai retrouvé par terre, déchiré. Il ne m'aime pas. Un policier m'a bousculé dans les escaliers. Je lui ai demandé de s'excuser, ils m'ont mis en isolement. L'après-midi, on a arrêté la grève. La police est venue parler aux gens, une trentaine de personnes sont allées manger, cela a cassé le moral des autres.
Alors c'est toujours extrait du livre « Feu au centre de rétention » dont on parle ce soir, que vient de lire Sophie. Cette suite d'événements de grève de la faim, de mutilations, mais aussi d'humiliations successives par la police, de passage à tabac, de choses comme ça. En fait, ça va avoir une issue, enfin au moins temporairement. C'est que à la fin du mois de juin 2008... Les événements vont prendre une tournure dramatique puisque y a un mort. Il y a un mort dans ce centre. Est-ce qu'on peut en...
Oui,
en
oui.
Enfin, vous êtes là pour ça.
Oui.
En même temps.
Donc le samedi 21 juin, effectivement, un retenu tunisien qui avait des gros problèmes de santé meurt. Voilà, ça faisait plusieurs jours. Bon, nous, on était en contact avec les retenus, donc on l'a su genre 10 minutes après que le mec soit mort. Et en fait, les retenus disent que ça faisait plusieurs jours qu'il allait pas bien et que voilà, il a pas été soigné, tout ça. Bon, l'attitude des flics, ça va être de dire que le mec est pas mort. Donc pendant 3 heures, le corps va rester là, alors que les retenus l'avaient trouvé mort, bleu, froid, quoi. Et donc, c'est le premier truc ce qui va vraiment énerver les retenus, c'est qu'on leur ment. On leur ment pendant 3 heures. On leur dit que le mec n'est pas mort. La nuit, donc le corps est transporté vers 8 heures du soir. Nous, on fait un rassemblement devant le centre de rétention et on appelle à un rassemblement le lendemain. La nuit, il va y avoir des premiers départs de feu dans le centre de rétention. Et puis, le lendemain, les retenus décident d'organiser une marche silencieuse dans le centre. Donc, le centre est divisé en deux, hein, dans celui où est mort le Tunisien. Et direct, les flics vont réprimer cette marche silencieuse. Voilà. Et là, ça va partir en émeute. Et en une heure, il va y avoir énormément de départs de feu. Et le centre va être complètement détruit en 3 heures de temps. Les deux centres, voilà.
Donc, il faut bien se rendre compte que quand même, cet événement, c'est vraiment un événement historique parce que le centre de rétention de Vincennes, un des deux avait brûlé déjà en janvier 2007, hein, mais personne n'en avait parlé. Il avait été reconstruit en novembre 2007 et probablement les mecs qui ont été accusés d'avoir mis le feu doivent pourrir encore en prison. Là, on commence à savoir quels ex-retenus sont inculpés de cet incendie. C'était vraiment une révolte collective. Donc ça, en soi, c'est vraiment important que les gens se soient révoltés en même temps. Et puis voilà, ça va vraiment enrayer la machine à expulser, quoi. Tout l'été, 240 places de moins, c'est énormément de rafles en moins sur Paris, quoi. Parce que pour mettre des gens en rétention, il faut en arrêter au moins le double, voire le triple. Donc, voilà, il y a eu beaucoup moins de rafles sur Paris en termes d'efficacité. C'est probablement 15 000 fois plus efficace que nos manifs à 2000 dans Paris où il se passe rien, quoi. Ça, c'est le premier truc. Et pour se rendre compte que vraiment c'était important, c'est qu'il y a un copain qui repart le dimanche après-midi de l'incendie du centre de rétention de Vincennes avec un sans-papier d'un collectif de sans-papiers qui est venu voir ça, qui était passé lui en tant que sans-papier dans ce centre de rétention. Il repart avec lui en RER et le mec, il a pris avec lui une tuile qui avait volé de l'incendie, quoi, comme souvenir de feu le centre de rétention de Vincennes, quoi. Et moi, je me souviens qu'au centre de rétention, le dimanche 22, donc quand il était en train de brûler, j'appelle un copain, un ancien retenu qui témoigne d'ailleurs dans le livre. Et je lui dis, je lui raconte ce qui est en train de se passer et il m'envoie à moitié boulé. Bon, je me retrouve un peu vexée, tout ça. Je le rappelle quelques heures après et je lui dis, non mais quand même, tu te rends compte de ce qui s'est passé? Et il me dit, bah oui, j'en ai rêvé pendant 20 jours.
Alors, on peut dire deux mots de la manière de la mobilisation qu'il y a eu autour, parce qu'on a évoqué ce qui se passait dans le centre, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pendant ce temps-là une série de manifestations où il y a eu parfois même plutôt du monde. Dire un petit peu qui étaient ces gens-là.
Bah, il y a eu des manifestations effectivement très régulièrement devant le centre de rétention de Vincennes, très diverses aussi, avec plein de gens de tous horizons. Le but, c'était d'essayer d'organiser des sortes de mini parloirs sauvages, parce qu'il y avait un endroit dans le centre où on pouvait voir les gens et éventuellement parler avec eux en criant un peu. Cet accès pour essayer de voir les gens qui étaient enfermés à l'intérieur, c'était sur le parking de l'hippodrome qui se trouve juste en face du centre de rétention. Et quand on allait manifester là-bas, le problème, c'est qu'en général, les flics ne nous laissaient pas accéder à ce parking. Donc, ça a été toujours très difficile de réussir à voir les gens, à parler avec eux, à échanger des slogans, etc. La police est allée jusqu'à mettre une bâche verte au seul endroit où on pouvait voir les retenus. Et le jour de l'incendie, comme le disait Nathalie, il y avait effectivement une manifestation. Et les gens qui étaient présents ont pu constater que les départs de feu, il y en avait à peu près partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une personne qui a mis le feu à un endroit, mais ça a été une révolte collective. Faut insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, l'État, il cherche à faire des exemples et il s'attaque à des personnes en particulier.
Je voulais revenir sur un truc pour tous ceux qui disent qu'il faut améliorer les conditions de rétention, tous les parlementaires qui passent assez souvent en disant il faudrait qu'il y ait de l'eau chaude et ceci et cela. Le slogan qui marche le mieux quand on est devant le centre de rétention et que les retenus reprennent et que les retenus reprenaient le jour de l'incendie, c'est liberté. Hein, c'est le premier truc que demandent les gens, bien sûr.
Alors après cet incendie, il y a eu une série d'accusations parce qu'il a bien fallu trouver des responsables. Ça pouvait quand même pas être les conditions de vie réservées aux retenus qui avaient amené à ça. Donc on a accusé pêle-mêle, je sais plus, SOS sans papiers, RESF.
Oui, enfin, le dimanche, ils ont accusé directement RESF. SOS sans papiers, ils les ont accusés pour l'incendie du centre de rétention du Ménil-Amelot au mois d'août. Mais bon, ceci dit, ceux qui sont vraiment inculpés, pour l'instant, c'est des anciens retenus du centre de rétention de Vincennes, et pas RESF, bien sûr. Et ils sont actuellement 6 en prison. Hein. Peut-être je peux donner leur nom. Quoi. Donc, il y a Ali Diallo, qui a été arrêté le soir même du centre de rétention de Vincennes, avec un autre retenu, mais qui, lui, a été mis simplement en témoin assisté et qui n'est pas inculpé. Donc, Ali Diallo est en prison. Ekma Mouktaré, qui lui a été arrêté, il me semble, dans le 12e arrondissement au mois de juillet. Donc ça veut dire que voilà, ils ont décidé de s'acharner et de faire des exemples et d'aller chercher les gens jusque dans la rue, quoi. Il y en a deux qui ont été arrêtés au centre de rétention de Wassel, puisque je rappelle que le soir de l'incendie, bien sûr, les gens n'ont pas été libérés. Il n'y a pas eu d'évasion, comme ils nous en ont parlé, 50 évasions et puis 20 évasions et le lendemain 14 évasions. Il n'y a jamais eu d'évasion, hein, parce que s'évader du centre de rétention de Vincennes, c'est quand même sacrément compliqué. Simplement, les gens, au moment du comptage après l'incendie dans la cour, ils étaient tellement énervés qu'ils ont été probablement une cinquantaine à refuser de répondre à leur nom. Et donc, les flics ont cru que les mecs s'étaient évadés, quoi. Donc voilà, Ekma Mouktaré, Mahamadou Dramé, un autre retenu, qui lui, je ne sais plus où il a été arrêté. Slahdin El-Wertani, alors lui, il est actuellement dans le coma. Il est dans le coma depuis le 4 novembre. Il a été arrêté aussi au centre de rétention de Wassel, où il avait été transféré après l'incendie. Et il a été mis en prison à Fresnes. Et le 4 novembre, il est agressé par son co-détenu. Et depuis, il est dans le coma. Voilà, donc ça fait bientôt un mois. Et Moïse Diakité, arrêté aussi avec lui au centre de rétention de Wassel. Voilà.
Et alors, pour eux, ce qui se dessine, c'est un procès sous quel chef d'inculpation ?
Alors, le chef d'inculpation, c'est destruction de biens par l'effet d'incendie et violence en réunion à agent de la force publique avec une ITT, une interruption temporaire de travail, il me semble que ça veut dire, de moins de 8 jours. Voilà, il n'y aura pas de procès probablement avant l'été prochain, mais c'est super important de les soutenir. C'est super important de leur faire comprendre que voilà, on soutient leur lutte, quoi. Cette lutte, elle était collective et que et ben un centre de rétention de moins, c'est bien. Et si on pouvait tous les faire disparaître, on serait très contents. Et donc voilà, c'est vraiment important de soutenir ces inculpés. Donc bah voilà, il y a un soutien qui s'organise autour d'eux et on annoncera plus tard, mais il y a plusieurs choses en vue pour les soutenir.
Yeah. On est au fait pour les pièges, notre vie c'est un business, quête de bif et du s'actif, on fait sa vie fait, même si les dés qui se cassent les couilles avec les ILS. On cherche le bif, on stresse, ravitaillage de gueuche ou fiche de paye, l'oseille pue, d'où qu'elle vienne, qu'importe d'où le payeur fume, man, que les vrais me comprennent, on a fait comme on a pu, rien à foutre que ça surprenne, on peut plus revenir au début, on a le vice de la maille, toujours en ville graille, l'esprit tordu même dans le sommeil. On vous assure les rails, le caillou et le high, on veut les wari pour entrer au soleil. Ah, c'est la marche noire.
Ils nous voient comme des clandos, mais ce qu'on a, y'a pas aux marches noires.
Fils légitime du bitume, ils y en sortent, on sort de leur décor pour
nos silhouettes comme des ombres, marche noire.
Ils nous voient comme des clandos, mais ce qu'on a, y'a pas aux marches noires.
Fils légitime du bitume, vision sombre, on sort de leur décor, c'est la marche noire.
Ok, check, c'est fils.
On mène une vie dure, on mène une vie de rue sur le bitume. Entre les bitunes et se ramasser des bitures. Baisse-moi ton fric car la France faut que tu la baisses cette pute. Même si t'as de belles études, t'es sous l'emprise de belles ébutes. Sous l'emprise de la dure ou de la douce drogue. Tu sais qu'il nous faut tous l'or avant que l'on soit tous morts. Tous morts de faim, tous morts défoncés. Tous ont des flingues d'ambulance sur le sol français. Par faute de manque de moyens, obligés de voler à ceux qui nous doivent rien. À cause de ceux qui nous le doivent bien. Je parle de ceux qui nous accusent du pouvoir, ils en abusent. De nous voir s'entretuer, ça les amuse. Ce qui est dur, c'est d'être là et rester sans se manifester. Ces traîtres là, sur ma vie, ils vont rester. Risquer la vie de mes frères, jamais si on paye vite les frais. Alors nos bras, il faut vite les faire.
C'est la marche noire.
Ils nous voient comme des clandos, mais ce qu'on a, y'a pas au marché noir.
Fils légitime du bitume, vision somme, on sort de leur décor. Pour
nos silhouettes comme des ombres, marche noir.
Ils nous voient comme des clandos, mais ce qu'on a, y'a pas au marché noir.
Fils légitime du bitume, vision sombre, on sort de leur décor.
Yeah.
C'est la marche noire.
Je rejoins la marche noire, Nespunta, plaque des gentlemen. Si jamais fini, on roulera en Bentley, man. On est béni, sans être né à Bethlehem. Don de Dieu, quand on sanctifie les BPM. Wolf le loup, olfactif, détection de wack. Pas de bois fou, c'est golf avec ta tête. Avec comme club une golf, roule sur ton ego camp. Sarko sur Sego et te laisse tirer le mégot. 30 piges c'est rien, c'est que le début. C'est plus un sport de jeunes, le rap les gros. Y'a pas de débat.
Non.
Mercredi 9 avril. Les gens qui entrent ici n'ont aucune chance. Moi, j'ai deux avocats. J'écris des lettres, mais les juges s'en foutent. Ils ont des objectifs à atteindre. Ils ne cherchent pas à comprendre. Même si tu n'es pas expulsé, tu restes ici 32 jours. Quand tu sors, tu as tout perdu. Tu n'as plus d'appartement parce que tu n'as pas pu payer ton loyer. Tu n'as plus de travail parce que tu n'y es pas allé. Certains parmi nous ne savent ni lire ni écrire le français. Quand ils vont chez le médecin pour un mal de tête, on leur donne un cachet pour les fous qui endormirait un éléphant. Après en avoir pris, un homme a dormi 24 heures. Ils font ça pour qu'on ne réfléchisse plus. Je conseille aux autres de ne pas prendre les cachets sans voir la boîte. Il faut que le médecin fasse une ordonnance pour qu'il existe une trace de ce qu'il a donné. Mais les gens ne savent pas. Beaucoup de flics ici sont des fils d'immigrés. Ils essaient de nous amadouer pour qu'on reste tranquille. Quand ils viennent me parler en arabe, je leur réponds d'aller se faire foutre. S'ils n'ont rien trouvé d'autre comme métier, qu'ils aillent se faire foutre.
Voilà, c'était un autre extrait que lisait Sophie du livre Feu au centre de rétention, à propos duquel nous recevons Nathalie et Raphaël ce soir. Une série de témoignages de ce que racontent les retenus du centre de rétention de Vincennes au cours des 6 premiers mois de l'année 2008. Concrètement, c'est l'envers du décor de quand Hortefeux annonce 25 000 expulsions par an, derrière, il y a toute une machinerie qui se met en place, dont ces fameux centres de rétention.
Oui, effectivement, faut bien penser qu'il y a beaucoup d'étapes dans l'expulsion et que c'est aussi important de se mobiliser à chaque étape. Donc là, avec Feu au centre de rétention, on a une mobilisation sur le centre de rétention, mais il faut bien penser qu'on peut se mobiliser aussi à d'autres moments, notamment au moment de la rafle, quand les gens sont arrêtés dans la rue, aux aéroports, au moment où ils sont expulsés dans l'avion. C'est aussi une pratique que tout le monde peut reprendre, de se rendre aux aéroports, de parler avec les personnes qui vont être dans l'avion au moment où le retenu va être expulsé, et de dire que voilà, il faut s'opposer à voyager avec une personne qui va être expulsée. Et puis il y a aussi les mobilisations au tribunal, au 35 bis, qui ont un réel impact. Quand on est très nombreux au 35 bis, on voit bien que chaque cas est examiné avec beaucoup plus d'attention et que ça a un vrai impact.
Oui, c'est assez bizarre d'ailleurs, pour avoir assisté à des audiences du 35 bis, c'est tellement une justice expéditive qui ne repose à peine sur du droit, où on traite des cas en 10 minutes à la chaîne, tout ça, que d'un seul coup on voit que cette machine se grippe quand il y a du public, quoi, que quand même ils peuvent pas faire absolument n'importe quoi à partir du moment où il y a des gens dans la salle, quoi, mais ils ont tellement l'habitude de ça se passe comme ça. D'ailleurs, les salles sont tellement petites que, enfin, il m'est arrivé de vouloir assister à des audiences, il y avait 2 places pour du public, quoi. Il y avait deux voilà, parce que c'est obligé qu'il y ait de la place pour du public, mais il y avait juste 2 chaises dans un coin. On peut juste dire un mot aussi sur les expulsions elles-mêmes, parce que vous en parlez un petit peu dans le livre, sur les conditions dans lesquelles on expulse des gens qui ne veulent pas l'être, et jusqu'où ça peut aller de la part de la police.
Oui, bah effectivement, c'est super fréquent. C'est super fréquent que les gens soient scotchés, voilà, voire drogués avant de partir. Donc ça, c'est un truc effectivement qu'on disait aux retenus, par exemple, ne buvez pas et ne mangez pas ce que les flics vous donnent avant l'expulsion, parce que voilà, c'est arrivé qu'il y ait des médicaments pour endormir les gens dedans. Et moi, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça.
Oui, ils se font aussi beaucoup frapper. Et il y a toujours un enjeu de savoir, pour essayer d'échapper à l'expulsion, il y a toute une technique à essayer d'adopter et à s'adapter à chaque situation, parce que ce qui se passe, c'est que il y a une grosse contradiction, en fait. C'est-à-dire que soit la personne montre ostensiblement qu'elle veut pas être expulsée, dans ce cas-là, on va le cellophaner, le scotcher entièrement son corps, le rentrer à l'horizontale dans l'avion et on va l'expulser quand même. Soit parfois, quand on montre suffisamment de résistance, on considère que le retenu ne veut pas être embarqué et on le fait redescendre de l'avion et il passe dans ce cas-là devant un juge.
Oui. D'ailleurs, oui, juste par rapport à ça, je repense à un témoignage du livre où on donne pas la conclusion de ce qui s'est passé, mais à un moment, il y a un retenu qui explique qu'en fait, on le trompe, on lui dit qu'on le réveille à 5h du matin et on lui dit qu'il va aller chez le juge. Et en fait, il appelle, je sais plus, vers midi, en disant, bah voilà, je suis à l'aéroport et je vais partir. Et donc, il n'y a jamais eu de juge. Et en fait, il a réussi à faire échec à son expulsion. Et donc, nous, je ne sais pas, 8 fois sur 10, quand on est allé à l'aéroport, suite à des contacts avec des retenus, les gens ont été débarqués et n'ont pas été expulsés. Hein. Donc, c'est vraiment une mobilisation qui marche, les mobilisations sur l'aéroport.
Écoutez, Nathalie, Raphaël, merci beaucoup d'être venu et continuez bien, voilà.